Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Europe 1 soir.
19h, 20h. Céline Géraud.
Bonsoir à tous et bienvenue à bord. Europe 1 soir, c'est votre rendez-vous d'information de ce début de soirée sur Europe 1. Alors dans ce journal, que faut-il retenir du discours sur l'Europe du président de la République à la Sorbonne aujourd'hui pour présenter ses ambitions européennes et relancer la candidature de Valérie Ayé? Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, sera avec nous en direct dans le studio à 19h20. Venez réagir 01 80 20 39 21. L'actualité, c'est aussi les derniers éléments de l'enquête dans l'affaire Kenji Girac. Le procureur de Mont-de-Marsan s'est exprimé il y a quelques minutes. La thèse de l'accident ne tient plus. Tous les détails dans quelques instants. Les conducteurs de métro de la RATP mobilisés pendant les JO pourront toucher des primes allant jusqu'à 2500 euros. Le célèbre cabaret du Moulin Rouge défiguré après l'effondrement de ses ailes la nuit dernière. Les riverains et les touristes sont stupéfaits, vous les entendrez. Et puis la procédure pour changer de nom en vigueur depuis 2022 a du succès. Tous les détails à la fin de ce journal. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Céline.
La tendance météo pour demain?
Alors fini le froid. Les températures se rapprochent enfin des moyennes de saison. Pour autant, le soleil restera timide et les passages pluvieux vont se succéder jusqu'en milieu de semaine prochaine, même dans le sud-est. Et on fait un point sur la journée de demain en fin de journal.
Europe 1.
Et on ouvre cette Europe 1 soir avec l'affaire Kenji Girac. 4 jours après la grave blessure par arme à feu du chanteur dans sa caravane à Biscarros dans les Landes, cet après-midi, le procureur de Mont-de-Marsan a livré des éléments éclairants. Stéphane Place, vous avez suivi cette conférence pour Europe 1. Alors jusqu'à présent, l'artiste avait répété qu'il s'agissait d'un tir accidentel. Aujourd'hui, cette thèse ne tient plus.
Oui, dimanche dernier, Kenji Girac a beaucoup bu tout au long de la journée. Les analyses estimeront qu'il avait un peu plus de 2 grammes d'alcool dans le sang au moment du tir et révéleront aussi des traces de cocaïne. Quand il revient dans sa caravane en pleine nuit, le chanteur ivre se dispute avec sa femme parce qu'il a réveillé leur petite fille. Pas de violence, mais des mots. Après que sa compagne lui a dit qu'elle voulait partir, elle est dans sa chambre avec leur enfant. L'artiste, lui, dans le salon, prend l'arme qu'il a achetée quelques jours plus tôt. La suite, c'est Olivier Janson, le procureur de Mont-de-Marsan, qui la raconte.
Il ne dit plus que le coup est parti involontairement. Il a indiqué que, en fait, cette impulsion a consisté pour lui à vouloir faire peur à sa femme, l'impressionner. Il indique qu'il a eu lui-même très peur quand il l'a entendu parler de départ. En quelque sorte, il a simulé un suicide, dit-il. Il précise qu'il a alors omis de vérifier si le chargeur dans cette arme de poing comprenait des munitions ou pas. Il le croyait vide, dit-il, et c'est volontairement qu'il a inséré le chargeur, et c'est volontairement qu'il s'est tiré dessus.
Kenji Girac indique assumer ce qu'il a fait tout en le regrettant fortement et maintient qu'il s'agit d'une simulation de suicide. A précisé le magistrat, cette affaire, sur le plan judiciaire, devrait se terminer par un classement, a ajouté le procureur.
Stéphane Place, à Mont-de-Marsan, pour Europe 1. L'actualité de ce jeudi soir, c'est aussi cet adolescent de 16 ans, placé en garde à vue. Le jeune homme, déjà fiché S, a reconnu qu'il projetait de commettre une action suicidaire pendant les Jeux Olympiques. Le parquet national antiterroriste s'est saisi de l'enquête. Noémie Loisel, vous êtes dans la commune de Marigné, en Haute-Savoie, non loin du domicile des parents de l'adolescent. Un adolescent, a priori, sans histoire, et dans son quartier, c'est la stupéfaction.
Oui, j'ai pu parler avec quelques voisins du quartier. Ils décrivent cet adolescent de 16 ans comme un garçon très gentil, poli, assez timide et sans histoire. Comme beaucoup ici, l'un de ses voisins qui le fréquentait lorsqu'il était plus jeune est surpris d'apprendre la nouvelle.
Super gentil, très poli, pas de signe de violence, rien du tout. Vraiment un super gamin, très gentil, quoi. Sa famille est très gentille, dans le partage. Vraiment une famille normale comme la mienne, comme toutes celles présentes ici. Ici, c'est tellement tranquille, on n'a jamais eu de mauvaises surprises ou de soucis par rapport au voisinage, et d'autant plus par rapport à cette famille-là et ce jeune, quoi.
Aucun signe de radicalisation, selon les voisins. Ils m'ont également confié que ses parents étaient responsables, stricts avec leurs enfants. Dans ce quartier en hauteur de Marigné, où une dizaine de maisons sont regroupées, le jeune garçon avait pour habitude de jouer au foot avec ses amis. L'adolescent est actuellement en garde à vue. Il était suivi pour radicalisation islamiste. Lors des perquisitions, les enquêteurs ont d'ailleurs retrouvé un serment d'allégeance à Daesh.
Noémie Loisel à Marigny en Haute-Savoie pour Europe 1. 19h04 sur Europe 1. Emmanuel Macron était de retour à la Sorbonne ce matin, 7 ans après son grand discours sur l'Europe. Le chef de l'État a réédité l'exercice pendant plus de 2 heures. Il a dressé un bilan de ce qui a été fait depuis 2017, mais aussi et surtout présenté ses perspectives pour l'avenir. Alexandre Chauveau, vous avez suivi ce discours pour Europe 1, un discours qui intervient en pleine campagne européenne et qui vise aussi à dynamiser la campagne de Valérie Ayé.
2 heures de discours et un maître mot pour Emmanuel Macron, la souveraineté européenne, défense, industrie, énergie, alimentation. Le chef de l'État appelle l'Europe à sortir de sa naïveté face à l'agressivité économique et militaire des puissances adverses. Les règles du jeu ont changé, affirme le chef de l'État, qui met en garde ses partenaires.
L'attaque contre les démocraties libérales, contre nos valeurs, contre, je le dis dans ce lieu de savoir, ce qui est le substrat même de la civilisation européenne, une certaine relation avec la liberté, la justice, le savoir, se joue maintenant ou pas. Oui, nous sommes au moment de bascule et notre Europe est mortelle, simplement cela dépend de nous.
Réarmement du monde, risque de décrochage économique et remise en cause du modèle culturel occidental. Face à la multiplication des menaces, Emmanuel Macron appelle à la mobilisation des pays européens. Un message envoyé également aux Français, appelés aux urnes le 9 juin prochain, et ce, alors que la liste de la majorité présidentielle est en grande difficulté dans les sondages.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, un discours d'Emmanuel Macron qui intervient entre 2 prises de parole des oppositions. Hier, Raphaël Glucksmann présentait son programme et cet après-midi, quelques heures après le chef de l'État, la droite a répliqué, Maïalène Trémollet.
Oui, Jordan Bardella et François-Xavier Bellamy critiquent tous deux un discours assumé comme un appel au vote, selon le président du Rassemblement National. À l'occasion de la présentation de son programme, Jordan Bardella relève un engagement personnel et direct du chef de l'État dans la campagne des européennes et rappelle sa responsabilité dans le bilan européen.
Après 6 ans et demi de recul, le bilan de la Sorbonne 1 est pour le moins décevant. Ce qui devrait valoir sinon des excuses, du moins une proposition de réorientation, ne donne lieu qu'à une séance d'autosatisfaction qui tient davantage de la méthode Coué que de la raison. Ces élections européennes sont donc la bataille électorale entre 2 conceptions de l'Europe et à l'évidence l'opposition entre notre projet et son bilan.
Même son de cloche chez François-Xavier Bellamy, la tête de liste LR, qui rappelle qu'il y a les discours à la Sorbonne d'une part, les actes à Strasbourg de l'autre.
Personne n'est dupe, c'est bien un discours de campagne, c'est un acte de campagne. Ce discours ne changera rien. Il n'y a rien de nouveau, rien que les Français n'aient déjà entendu très souvent. Et je crois que les Français, en réalité, ont déjà tourné la page. Si vous relisez le premier discours de la Sorbonne, sa seule réussite concrète, c'est d'avoir créé la dette européenne.
Un discours vivement critiqué donc, tant sur le fond que sur la forme, à la fois sur le bilan du président depuis 7 ans en Europe et sur une prise de parole considérée comme un discours de campagne en faveur de Valérie Ayé, la tête de liste Renaissance.
Maïalène Trémollet du service politique d'Europe 1 et dès 19h20, Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, sera avec nous en direct dans ce studio pour décrypter ce discours, mais aussi pour réagir sur les autres sujets qui font l'actualité. Et si vous, auditeur d'Europe 1, vous souhaitez intervenir, réagir, 01 80 20 39 21. 19h08, vous restez bien avec nous sur Europe 1. Dans quelques instants, Europe 1 soir, la suite. On en sait plus, évidemment, sur le dispositif de sécurité pour les Jeux. Des Jeux qui pourraient rapporter gros aux conducteurs de métro de la RATP mobilisés. Le montant des primes pourra atteindre 2500 euros. On vous dit tout ça juste après la pub. A tout de suite.
19h20, Céline Géraud.
Allez, 19h10, on est ensemble comme chaque soir jusqu'à 20h et on est à 91 jours des Jeux Olympiques. Alors après les policiers, les conducteurs de métro et RER qui seront mobilisés pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques vont toucher eux aussi des primes. La direction et les syndicats majoritaires FO et CGT se sont mis d'accord sur les montants de cette prime. Et le moins qu'on puisse dire, Barthélémy Philippe, c'est que les montants sont conséquents.
Oui, la direction a d'abord proposé 1200 euros, mais finalement, ce sera 1600 euros. Après une demi-journée de négociations, les syndicats ont finalement obtenu 400 euros de bonus pour les conducteurs mobilisés pendant toute la durée des Jeux. Ces 1600 euros s'ajoutent à la prime d'événement de 44 euros par jour travaillé. Au total, les agents les plus fortement mobilisés pourront donc toucher jusqu'à 2500 euros. Une négociation assez satisfaisante pour Jean-Christophe Delpras, secrétaire général de FO-RATP, il souligne l'importance du rapport de force entretenu par les syndicats.
On a dû passer par les menaces de grève pour avoir ce qu'on a aujourd'hui. En France, le fruit des négociations, c'est le rapport de force. Ça fait partie des armes qu'on a, nous, mais c'est aussi un constat d'échec. Ça veut dire que la direction ne nous a pas entendus.
Précision importante, la prime sera versée sous condition de présence. Son montant sera réduit de moitié si le conducteur est absent 5 jours sur la période. Au-delà, la prime sera supprimée. Tout métier confondu, la direction de la RATP a indiqué que les agents mobilisés pendant les Jeux percevront en moyenne 1000 euros de prime.
Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1, 19h11 dans cette Europe 1 soir. Je vous parle maintenant de cette loi entrée en vigueur en 2022 qui simplifie le changement de nom. Depuis, le nombre de Français ayant effectué cette démarche a triplé. L'INSEE vient d'ailleurs de révéler les chiffres. 144 000 personnes ont modifié leur nom entre août 2022 et décembre 2023. Louise Salé, c'est 3 fois plus qu'avant la loi sur la même période.
Oui, parce que grâce à cette loi, plus besoin de passer devant un juge si l'on veut ajouter ou bien substituer à son nom de famille celui de l'autre parent. Un simple formulaire déposé en mairie suffit sans justification. Et cette démarche est réalisée en majorité par des femmes et par des jeunes adultes de moins de 30 ans. Lionel Espina, c'est co-auteur de cette étude responsable des répertoires de personnes à l'INSEE.
Il y a eu un pic, une montée en charge très rapide. Les premiers changements de nom sont arrivés le 1er août 2022. Et jusqu'en octobre, on a eu une très forte hausse de ces changements de personnes qui étaient en attente, en fait, qui attendaient que cette loi passe pour pouvoir faire cette démarche.
Les demandes de changement de nom ont effectivement connu un pic à l'automne 2022. Il y en a eu 13 000 juste après la loi. Et dans son étude, l'INSEE note que dans les 2/3 des modifications, il s'agit du remplacement du nom d'un parent par l'autre, davantage qu'un simple ajout de nom au nom initial.
Et précision de Louise Salé du service Société d'Europe 1. C'est l'un des symboles de la capitale et de Pigalle, le Moulin Rouge. La nuit dernière, le célèbre cabaret a perdu ses ailes. Les pales et une partie de l'enseigne lumineuse se sont effondrées pour une raison encore inconnue et sans faire de blessés. Le reportage de Guillaume Dominguez.
Au pied du Moulin Rouge, la bouche grande ouverte, les yeux écarquillés, les touristes accusent le coup. Difficile de croire que le plus célèbre cabaret parisien est amputé d'une partie de sa façade. Stéphane, en vacances à Paris, est venu dès qu'il a appris la nouvelle.
J'y croyais pas, donc du coup, je suis venu sur place pour voir. Ça me fait un choc. J'ai toujours connu avec les ailes, tout, et c'est ça qui fait la féerie du Moulin. Et le fait que ce n'est plus là, ça fait quelque chose.
Une surprise tant pour les touristes que pour les habitants du quartier. Jean-Pierre habite à 200 mètres du Moulin Rouge.
C'est bizarre. Surtout, c'est le Moulin Rouge, c'est le plus connu à Paris, Il y a beaucoup de touristes, tout ça. Ils ont eu de la veine, il n'y a pas eu de blessés. Ça aurait été le samedi, dimanche, toutes ces blindés-là. Ça aurait pu y avoir des blessés, c'est grave.
La chute des ailes est pour le moment inexplicable, indique dans un communiqué la direction du Moulin Rouge, mais précise qu'il ne s'agit pas d'un acte malveillant. Une version qui correspond au témoignage de plusieurs habitants du quartier. Rita est chef de rang au Rouge Bis, la brasserie qui fait face au Moulin Rouge.
J'ai un ami qui était là cette nuit et qui a vu l'aile tomber. Apparemment, elle serait tombée d'elle-même. Nous, ça fait des années qu'on est devant. Ça fait tout drôle.
Même sans ses ailes, au Moulin Rouge, le spectacle continue. Toutes les représentations sont maintenues. Les danseuses seront de nouveau sur scène dès ce soir.
Guillaume Dominguez, tout près du Moulin Rouge pour Europe 1. 19h14, on fait un point sur les marchés, comme chaque jour. Avec vous, Didier Hameau de Boursier.com. Un CAC 40 en baisse ce soir.
On baisse assez net d'ailleurs, moins 0,93% finalement, 8017 points, même si le seuil des 8000 points a été préservé, alors que les résultats d'entreprise ont continué d'animer le marché, avec dans le palmarès quelques valeurs qui s'en sortent bien, Veralia, Fnac, Sanofi en hausse de 4 à 5%, mais c'est beaucoup plus difficile pour Atos qui perd encore 6%, toujours en grande difficulté. Baisse aussi appuyée sur Dassault Systèmes après ses résultats, moins 5%. Pernod Ricard perd aussi pratiquement 3%. Ça baisse un petit peu partout. Il faut dire qu'à Wall Street, il y a Meta, donc Facebook, qui perd 12% actuellement après des comptes mal reçus par le marché américain. Ça entraîne un petit peu tout le monde. Francfort, moins 0,9%. Bruxelles, moins 0,7%. Le CAC 40 perd 0,93%. 8017 points.
Merci Didier Hameau de Boursier.com. 19h15, place à la météo avec vous, Marlène Duret. Le temps se dégrade sur la majeure partie du pays demain.
Et oui, plus de nuages que de soleil, avec des passages pluvieux plus ou moins nombreux, plus ou moins marqués, voire quelques orages. En tout cas, le risque sera plus prononcé entre le Var, les Bouches-du-Rhône et les Cévennes demain matin. Prévoyez de bonnes pluies, elles peuvent tourner à l'orage. Et cette partie instable orageuse va rejoindre au fil des heures les Alpes du Sud. Et puis on a une autre zone un peu plus active, plutôt à l'ouest du pays, en particulier l'après-midi. De nombreuses averses potentiellement orageuses devraient circuler entre le Périgord, le Poitou, les Pays de la Loire, la Bretagne, le Cotentin, avant de rejoindre en fin de journée la région parisienne et la Haute-Normandie. Notez quand même une amélioration au bord de l'océan avec le retour progressif du soleil. C'est-à-dire que par rapport au matin, ça va bien se dégager. Et puis au pied des Pyrénées, ce sera l'inverse. Les belles éclaircies du matin céderont la place aux averses, aux nuages. Et je termine par la Corse, plutôt agréable, avec pas mal de soleil.
Et comme prévu, les températures continuent de monter.
Oui, les minimales seront raisonnables pour une fin avril. Pas de gel demain matin, en pleine, tout du moins. Le risque de gelée ne concernera plus que les massifs. Et puis les maximales seront comprises entre 12 degrés à Cherbourg et 19 à Ajaccio. Avec par exemple 13 à Quimper, il fera 14 degrés à Sochaux, à Amiens, à Colmar. 14 à Nice également, 15 à Limoges, à Tours, 16 à Paris, à Lyon et à Marseille. 17 du côté du Midi-Toulousain et 18 à Perpignan. Et puis ce week-end, sachez qu'on va retrouver des températures de saison. Seulement, voilà, le temps sera perturbé, voire agité, avec notamment un épisode cévenol qui va se mettre en place. Voilà, il faudra surveiller les cumuls d'eau.
Merci beaucoup Marlène Duret et à demain pour de nouvelles aventures. Nous, on reste ensemble, bien sûr, hein, jusqu'à 20h comme chaque soir. Et dans quelques instants, Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, sera avec nous en direct dans le studio. Alors évidemment, on va revenir sur le discours d'Emmanuel Macron sur l'Europe, à la Sorbonne, les élections européennes, mais aussi la polémique autour de la GPA. Ne bougez pas, restez bien avec nous et 01 80 20 39 21 si vous souhaitez réagir, je vous attends.
Europe 1 soir, 19h 20h. Céline Géraud.
Allez, Europe 1 soir, on est ensemble jusqu'à 20h et je suis ravie d'accueillir dans ce studio Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue à bord. On va décrypter évidemment ensemble le discours sur l'Europe du président Emmanuel Macron. C'était ce matin à la Sorbonne, 7 ans après son premier discours à la Sorbonne. Là aussi, le chef de l'État a donc réédité l'exercice pendant plus de 2 heures. Quels enseignements peut-on en tirer ? Louis Dragnel, bonsoir.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
Vous êtes le chef du service politique et vous avez une première question pour Prisca Thévenot.
Oui, bonsoir Madame la Ministre. Alors donc, on a écouté très attentivement cet après-midi le discours du président. Il y a eu beaucoup de propositions. C'est un discours d'ailleurs de près de 2 heures, donc un petit peu long. Des propositions sur l'immigration, sur l'industrie, la souveraineté. Il n'y avait quasiment aucun sujet d'ailleurs qui n'a pas été évoqué. Il y a beaucoup de Français qui se posent la question, qu'est-ce qui fait que cette fois, réellement, vous allez faire ce qui a été avancé par le président ?
En fait, tout simplement parce que déjà les autres fois, donc en l'occurrence en 2019, sur la base du discours en Sorbonne de 2017, nous avons fait ce que le président de la République avait dit. En termes de défense, en termes de souveraineté alimentaire, sanitaire, industrielle, nous nous sommes avancés, nous avons réussi à relever des défis communs. On a beaucoup parlé sur ces plateaux et d'autres, par exemple pendant la Covid, nous avons réussi à surmonter la crise Covid grâce à notre capacité à agir en européen. Nous avons réussi à relancer l'économie suite à la Covid grâce à un engagement en européen. Nous avons réussi à nous mobiliser pour soutenir l'Ukraine grâce à un engagement européen. Nous avons aussi changé des sujets qui touchent au quotidien des Français et de nombreux foyers, notamment des parents, sur le numérique. On a commencé à avancer avec des lois sur le DMA, DSA.
Au discours d'Emmanuel Macron là, sur la politique migratoire, c'est vrai, et sur d'autres sujets, on a l'impression d'avoir déjà entendu plusieurs fois, et beaucoup de Français ont entendu plusieurs fois ces annonces, ces engagements. Et du coup, forcément, ça peut créer un petit effet déceptif.
Mais vous savez, la Sorbonne, comme j'y étais ce matin, je m'interrogeais sur ça aussi. La Sorbonne, c'est le lieu des promesses tenues. Tout ce qui a été dit en 2017 par Emmanuel Macron en Sorbonne a été tenu, réalisé. Et nous devons continuer à aller plus loin. Sur l'immigration, vous avez raison. Frontex, nous l'avons réarmé correctement pour pouvoir mettre des gardes-frontières.
Aujourd'hui, les frontières de l'Union européenne ne permettent pas de protéger l'Union européenne.
Mais nous avons avancé.
Il n'y a rarement eu autant de flux migratoires depuis 2015,
par exemple. Nous avons lutté aussi contre les passeurs. Nous avons fait des interpellations en européen. Nous avons également débouté ceux qui étaient déboutés du droit d'asile. Ils ont été reconduits. Donc, je veux dire, dire nous devons continuer à y aller. Mais vous savez, sans naïveté et en lucidité, on ne peut pas en permanence rejeter ou nier tout ce qui a été fait au cours des dernières années. C'est
alors,
pas honnête.
Je voulais vous interroger sur une phrase du président et je voulais savoir ce que vous en pensiez. Le président a dit tout à l'heure et il a mis en garde, il a dit qu'il y avait un risque que l'Europe puisse mourir. Qu'est-ce que ça veut dire dans les mots du président ?
Je crois qu'il n'y a pas besoin de chercher entre les lignes. Oui, l'Europe peut mourir. Et nous soyons très clairs. Aujourd'hui, nous avons quoi ? Nous avons des grandes puissances qui se réaffirment. Nous avons des guerres à nos portes, sur notre continent. Nous avons de grandes instabilités, des ingérences qui viennent bousculer nos démocraties occidentales. Et donc oui, en européen, nous devons pouvoir réagir et être dans...
Pour bien comprendre, l'Europe peut mourir en raison des menaces extérieures qui pèsent sur l'Europe ou est-ce que, dans les propos du président, il fallait comprendre que certains partis souhaitent la mort de l'Europe ?
Non, mais vous lisez dans mes pensées, mais c'est exactement ça. Elle peut mourir aussi parce que oui, il y a des ingérences extérieures, parce qu'il y a des fragilités extérieures et ça, je viens d'en parler, mais aussi elle peut mourir en interne, d'elle-même. Et regardons ce qui s'est passé cette semaine. Au Parlement européen a été proposé un texte pour justement dénoncer les ingérences russes. Certains mouvements politiques français qui nous représentent au Parlement européen ont préféré aller à la piscine plutôt que de voter. Et je vais vous dire de qui je parle du Rassemblement national. Donc je pense que oui, aujourd'hui, même au sein du Parlement européen, il y a des dangers. Et c'est pour ça que cette élection du 9 juin est fondamentale. C'est réellement un choix pour les 5, 10, 15 prochaines années.
Alors justement, dans les sondages, la candidate Valérie Ayé est loin derrière Jordan Bardella. Qu'est-ce qui cloche ?
Vous savez, les sondages sont à regarder. Je ne vais pas vous faire l'affront ici de vous dire que je ne les regarde pas et circuler, il n'y a rien à voir. Bien sûr,
on ne vous croirait pas.
Oui, et puis je ne vais pas commencer à dire ça. Non, les sondages, on les regarde. Maintenant, est-ce que ce sont les sondages qui nous mobilisent chaque jour au quotidien ? Non.
Enfin, on a fait quand même la sensation politique. Que le président vient à la rescousse aussi de la candidate Valérie Ayé.
Ce n'est pas parce que le président de la République, aujourd'hui, le 25 avril, a parlé d'Europe que ça a une symbolique autre que ce qu'il a fait depuis 2017. Depuis 2017, le président de la République est mobilisé sur le sujet européen. Il a été le premier candidat aux élections européennes à brandir deux drapeaux, le drapeau français et le drapeau européen. Il a été le premier à dire dans sa campagne pour les présidentielles en 2016, parler d'Europe et de la France. Il a continué inlassablement à le faire au cours des 7 dernières années, à différents moments. Et nous l'avons fait aussi dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Nous n'avons pas eu de cesse de continuer à avancer sur ces sujets.
Mais justement, qu'est-ce qui se passe ? Enfin, quelle est votre explication ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle que de sondages, donc une photographie à l'instant T de ce que peut penser l'opinion. Comment est-ce qu'on explique, par exemple, que Jordan Bardella a un score qui est quasiment égal au double de celui de votre candidate Valérie Ayé ? Et je me souviens de la dernière campagne européenne. Votre candidate était bien plus haut dans les sondages.
Elle était à 10 points. On était aussi à 10 points.
Un peu plus.
Peu ou prou.
Mais vous savez, RN n'était pas aussi fort.
Mais très bien. Vous voulez qu'on compare les sondages, etc., sur les élections présidentielles, sauf de ma part, il y avait un certain candidat Zemmour qui devait exploser tous les scores.
Ce que je vous dis,
et je vous parle aussi en tant que militante.
Mettons de côté, par exemple, Valérie Ayé. Est-ce que c'est la question ? Est-ce que ça veut dire que les Français aussi doutent de l'Europe ? Est-ce que vous n'avez pas été suffisamment convaincant pour expliquer qu'il fallait. Parce qu'on entend vos propos et de la majorité présidentielle, il faut plus d'Europe, il faut encore une fois que les Français fassent confiance à cette liste que vous encouragez, que vous soutenez, qui demande aux Français de faire un acte encore plus vers plus de soutien à cette Union européenne.
C'est plus qu'une liste, c'est un projet qu'on défend. On le défend aujourd'hui et on l'a défendu hier en 2017 et on continuera à le défendre. Et j'insiste vraiment sur ça, oui, nous nous mobilisons partout. Bien évidemment ici, et merci de me donner l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, mais aussi au quotidien, sur les marchés, dans des tractages, dans des porte-à-porte, en allant coller des affiches, j'y passe mes week-ends, j'y passe mes soirées, comme de nombreux militants et militantes. Nous sommes mobilisés pour convaincre, expliquer et vraiment le faire dans une complexité qui est nécessaire. Simplement être dans un discours de radicalité, c'est facile. Être aujourd'hui dans la nuance, c'est ambitieux, c'est courageux et c'est exactement ce qu'a fait Emmanuel Macron aujourd'hui en rappelant que notre projet européen, nous le portons depuis 2017, nous y travaillons depuis 2017 et nous allons continuer à le faire, pas simplement dans un calendrier électoral, mais dans une ambition bien au-delà, pour 5 ans, 10 ans, 20 ans.
Des élections européennes qui sont quand même effectivement sous haute tension pour vous, parce qu'il y a Jordan Bardella d'un côté, on l'a dit, mais il y a Raphaël Glucksmann de l'autre, et on a vraiment la sensation que pour une fois, c'est la majorité qui est prise en tenaille.
Écoutez, moi, je n'ai pas l'impression que la majorité est prise en tenaille, j'ai plutôt l'impression que les Français sont pris en tenaille. Quand Raphaël Glucksmann nous explique en long, en large, en travers qu'il a tout fait pour l'Europe et qu'il est loyal à sa famille politique et loyal aux Français.
Il est séduisant, en
pardon,
tout cas, il attire.
Il est séduisant. Ben, oui. Moi, je vais vous lire les votes qu'il fait. Et c'est peut-être ça qui est important aujourd'hui.
Ben, ils sont à 80% les mêmes que ceux de votre groupe. C'est ce que Valérie Ayé a dit d'ailleurs.
Ben, moi, je vous dis, ben, moi, je les ai regardés les votes. Et ce que moi, je vous dis, c'est que non seulement ils votent contre le texte comme le pacte asile-migration, contre le pacte de stabilité et de croissance, la loi climat, le plan en faveur de la propriété intellectuelle. Ils votent contre ces sujets qui sont importants pour les Français. Et en plus, ils votent contre son propre groupe politique auquel il appartient au sein du Parlement européen.
Mais
donc,
comment
croire la parole de Raphaël Glucksmann quand, sur ces sujets-là précisément, sur lesquels il est en train de se prononcer en ce moment, en train de dire que c'est génial et qu'il faut avancer, il a voté contre hier au Parlement européen, et qu'en plus, il n'a pas tenu sa parole de loyauté au sein du groupe auquel il appartient. J'interroge sa capacité à faire confiance à la parole de Raphaël Glucksmann.
Prisca Thévenot, vous restez évidemment avec nous. Merci beaucoup Louis Dragnel, chef du service politique. Et nous, on reste ensemble. On va prolonger évidemment le débat. On va notamment parler des autres sujets qui font l'actualité, notamment la GPA, le droit du sol, la fin de vie. Restez bien avec nous sur Europe 1. À tout de suite.
Europe 1, le journal permanent.
Et à 19h31, Kenji Girac dit avoir voulu simuler un suicide, croyant le chargeur de son arme vide. Le chanteur Kenji Girac était sous l'emprise de l'alcool et de la drogue. Kenji Girac dit assumer son geste tout en regrettant. L'enquête exclut un tir accidentel ou effectué par un tiers. À un mois et demi des élections européennes, Emmanuel Macron appelle à un nouveau sursaut de l'Europe si elle ne veut pas mourir. Une Europe dont les valeurs de démocratie libérale sont de plus en plus critiquées et contestées, a déclaré à la Sorbonne ce matin le chef de l'État. Le chômage se stabilise en France avec une très légère baisse du nombre de demandeurs d'emploi à 0,1%. Les intentions d'embauche pour cette année se maintiennent à un très haut niveau, malgré un léger fléchissement par rapport aux années précédentes. Enfin, la condamnation d'Harvey Weinstein a été annulée par une cour d'appel de New York, condamnation pour viol et agression sexuelle prononcée en 2020. La justice estime que des erreurs de procédure ont été commises et ordonne un nouveau procès. Dans un autre procès, l'ex producteur star d'Hollywood a été séparément condamné à 16 ans de prison à Los Angeles.
19h-20h, Europe 1 soir.
Et on reste ensemble évidemment avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. Si vous souhaitez réagir, évidemment, on vous attend dès maintenant. On est avec Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement. On va dérouler ensemble les autres sujets qui font l'actualité. Et on va commencer par parler de la GPA. Alors, la GPA qui fait l'actualité avec le vote du Parlement européen hier. Mais il y a d'abord cette polémique. Je la rappelle, le styliste Simon Porte-Jacquemus, marié à Marco Maestri, a annoncé la naissance de ses jumeaux. Ces derniers seront donc élevés par deux papas, ce qui a fait réagir Marion Maréchal qui a tweeté « Où est la maman » a-t-elle demandé sur les réseaux sociaux X. Des propos qui ont été dénoncés par de nombreux élus, notamment de votre part, Prisca Thévenot, l'accusant d'homophobie décomplexée. Alors avant de vous faire réagir, je vous propose d'écouter sa réponse, c'était hier soir sur CNews.
« Jamais je n'accepterai qu'on banalise le fait de louer le ventre d'une femme pour une grossesse. » Je ne suis pas un produit à louer, mon utérus n'est pas un produit à louer, les enfants ne sont pas des biens de consommation, ce ne sont pas des biens à vendre qui peuvent faire l'objet d'un contrat. Dans les contrats de mères porteuses dans un certain nombre de pays étrangers, vous avez par exemple des garanties de 2 ans. Ça veut dire que on pose une garantie sur l'enfant, s'il décède, y compris pour des raisons domestiques ou un accident de voiture 2 ans après le contrat, on vous le remplace. Je ne m'habitue pas à la banalisation de cette pratique qui, je le dis le plus franchement possible, est pour moi monstrueuse et honteuse.
Marion Maréchal, sur CNews hier soir. Alors, c'est un sujet, évidemment, qui fait débat. Prisca Thévenot, est-ce qu'on peut se féliciter d'un principe, la GPA, qui est interdit en France, mais possible à l'étranger ?
Mais attendez, moi, je pense qu'on va revenir à ce qui a été à l'origine, comme vous l'avez dit, pour reprendre vos propres mots, d'une polémique. Ce qui est à l'origine d'une polémique, c'est le tweet absolument indécent de Marion Maréchal Le Pen, qui est loin d'être bête et qui a tweeté précisément en plus le jour des 11 ans du vote de la loi du mariage pour tous. On a un couple, en l'occurrence deux hommes, qui partagent leur bonheur d'accueillir deux enfants. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Vous dites félicitations. En général, c'est ce qu'on dit, non? Quelqu'un normalement composé, il dit félicitations. Et en fait, elle s'empresse pour en faire un sujet de polémique, et en plus de façon extrêmement hypocrite, parce que ce qu'elle dénonce en réalité, c'est le mariage pour tous, elle a toujours été contre, et là elle essaie de faire un contre-feu permanence. Je l'entends quand elle parle, je suis désolée, je le dis de façon assez claire. Et là, quand elle parle, elle nous explique la GPA, etc. Mais c'est évident.
C'est une question d'éthique et de dignité, et elle a repris les mots employés par Emmanuel Macron en 2017.
Eh bien justement, donc de quoi elle parle? Il est clair qu'en France, la ligne est claire, en France, la GPA n'est pas autorisée. Donc de quoi elle parle? C'est parce que sa campagne ne décolle pas, qu'elle est en train d'essayer d'allumer des contre-feux en permanence pour faire du bruit et du buzz médiatique, pour être invitée sur les plateaux télé? Qu'elle parle d'Europe, qu'elle nous explique ce qu'elle a envie de faire, qu'elle nous explique ce qu'elle ambitionne. Et voilà, il y aura un vrai débat là. Mais là, je suis désolée. Je vais vous le dire de façon extrêmement, le plus calmement possible. Ce qu'elle fait est absolument odieux. Parce qu'en plus, elle a lâché à la vindicte populaire deux hommes qui étaient en train d'accueillir un moment extrêmement heureux, personnel. Et si vous regardez les tweets qui sont en dessous, les commentaires qui sont en dessous, c'est absolument abject. Abject.
Prisca Thévenot est avec nous jusqu'à 20h et avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21. On parle d'un autre sujet. Cette semaine, le Royaume-Uni a annoncé que les migrants entrés illégalement sur le territoire britannique pourront désormais être expulsés vers le Rwanda. Alors, faut-il une mesure similaire pour les migrants entrés illégalement sur le territoire français? Selon un sondage CSA exclusif pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche, 67% des Français répondent oui. Alors, je vous pose la question, est-ce qu'une mesure qui pourrait s'inspirer de cette mesure-là, pourrait inspirer le gouvernement.
Est-ce qu'on peut aussi revenir sur l'origine de ce qui a conduit effectivement le Royaume-Uni à se trouver dans cette situation-là?
Sous-traiter l'immigration
Justement, ils ont un problème d'immigration, effectivement, incontrôlé et illégal.
Depuis le début de l'année.
Ouais. Plus 20%, fois 2 depuis qu'ils sont sortis de l'Union européenne. Quelle était la promesse des Brexiteurs? C'était justement de ne plus avoir de problème d'immigration illégale et de pouvoir contrôler leurs frontières. Force est de constater que ça n'a pas marché. Je pense que c'est aussi important de regarder aussi ce constat-là. Maintenant, sur le sujet de l'immigration et de la gestion de l'immigration régulière et de lutter contre l'immigration légale aussi, eh bien, il y a deux échelles sur lesquelles nous devons travailler en français. Bien sûr, déjà avec le renforcement de nos dispositifs, et ça nous l'avons fait notamment au travers de la loi qui a été votée en décembre dernier, la loi immigration portée par Gérald Darmanin, qui a tout de suite été mise en place et qui a porté ses fruits. Et nous le faisons aussi en européen, parce que oui, nous avons aussi des frontières extérieures à gérer en européen. Nous ne sommes pas une île au milieu de l'océan. Et ça, nous le faisons aussi au travers du pacte asile et migration qui a été justement récemment voté. Nous continuons à travailler inlassablement sur ces deux volets, et nous devons le faire avec cette logique-là. Autrement, ce sont que des belles promesses et ça conduit à ce qui se passe exactement en ce moment outre-Manche.
Alors, à propos du droit du sol, justement, le 11 février dernier, Gérald Darmanin a annoncé qu'Emmanuel Macron entendait entreprendre une révision constitutionnelle d'ici à l'été pour supprimer le droit du sol dans le département ultramarin de Mayotte. Est-ce que vous irez jusqu'au bout?
Il y a un projet de loi qui est en cours, en travail, par la ministre en charge Marie Guévenoux, qui s'est rendue de nombreuses fois à Mayotte pour échanger justement avec les élus locaux, mais également l'ensemble des personnalités compétentes sur le sujet. Un texte est en travail et la ministre pourra revenir précisément sur tout cela.
Autre sujet sensible dont j'aimerais parler avec vous, Prisca Thévenot, la fin de vie. Le projet de loi sera présenté à l'Assemblée fin mai. Est-ce que vous avez la certitude ce soir que les quatre conditions strictes pour y avoir accès, alors je le rappelle, être majeur, avoir un discernement plein et entier, être atteint d'une maladie incurable avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme et endurer des souffrances réfractaires, est-ce que vous avez la certitude que ces quatre conditions seront respectées dans ce projet de loi à l'Assemblée qui sera présenté le 27 mai?
Alors je trouve qu'on va un tout petit peu vite, parce que le projet de loi n'est pas encore voté. Oui. Et je pense qu'il est important. Je suis une ancienne parlementaire, donc il est important aussi de respecter le travail parlementaire et le temps parlementaire. Il a commencé son cheminement depuis lundi en commission spéciale. Et moi, ce que je dois déjà saluer, c'est que les débats, les auditions se passent de façon extrêmement sereine. Il n'y aura pas de bons parlementaires ou de mauvais parlementaires. Il n'y aura pas de bons votes ou de mauvais votes. Il faut laisser le débat se faire calmement et paisiblement. Je pense que c'est important et je le souligne d'autant plus qu'en plus, c'est la continuité d'un travail citoyen qui a été mené dans le cadre d'une convention citoyenne voulue par le président de la République, Emmanuel Macron.
Il y a eu une petite polémique au début quand même avec le collectif des soignants qui n'était pas invité à être auditionné, qui finalement l'est.
Et cette démarche de convention citoyenne est extrêmement importante. C'est quelque chose qui tenait à cœur au président de la République et qui fonctionne. Permettre aux citoyens de se mobiliser, de pouvoir interagir sur des questions de société imminemment importantes.
Donc la commission spéciale travaille actuellement.
Exactement.
Les auditions se poursuivent. Est-ce que les quatre conditions qu'on vient d'évoquer seront, selon vous, respectées ? Parce qu'il y a des tensions, semble-t-il, notamment à propos de la majorité. Des personnes qui pourraient.
Il ne doit pas y avoir de tension. On doit pouvoir débattre calmement, paisiblement. Mais pour l'instant, le texte est en train de commencer à cheminer. C'est un peu compliqué de faire des si et des suppositions sur un texte qui est en train de cheminer.
Alors, concernant la dette publique, maintenant, Bruno Le Maire a demandé des économies. Les Français vont devoir se serrer la ceinture. Dans le même temps, des accords généreux, on peut le dire, ont été signés entre les syndicats et les agents de la SNCF, mais aussi les contrôleurs aériens. Est-ce que vous pouvez nous garantir, là aussi ce soir, que ces accords ne coûteront rien aux contribuables ?
Il y a des accords qui ont été mis en place dans le cadre d'entreprises. Je pense que déjà, le plus important, c'est de rappeler que le dialogue social fonctionne. Et ça, c'est important de le dire.
Parce la paix sociale aussi s'achète à prix d'or.
Je pense qu'on
les Jeux
pas...
olympiques étant un levier, effectivement...
On ne peut pas dire, et
puissant.
On a passé beaucoup de temps à dire que le dialogue social ne fonctionnait pas en France. Force est de constater qu'il fonctionne. Et ça, c'est aussi à saluer. Je pense que de temps en temps, vous savez... j'ai l'impression qu'en permanence, on est en train de nous dire que sur tous les sujets, tout va mal en France. Est-ce qu'on pourrait être aussi... sans nier les difficultés, sans nier les défis qui sont face à nous et sur lesquels nous devons continuer à nous mobiliser et travailler, aussi être un peu fier d'être français et fier de ce qui se passe dans notre pays et quand il y a des avancées, les saluer. Et c'est ça qui est important aujourd'hui. Et ce qui est important, c'est que le service public qui est rendu par les différentes entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, puisse continuer à être fait et que bien sûr, cela se fait dans un équilibre budgétaire qui est extrêmement important et sur lequel la majorité entière
Donc
avec le gouvernement est mobilisée.
Vous comprenez que c'est un sujet, Prisca, c'est-à-dire que pour les contribuables voilà, qui se serrent la ceinture, la période est compliquée, on nous demande de faire des économies. Bruno Le Maire, lui, effectivement, cherche 10 milliards, 20 milliards. Est-ce que ça ne va pas avoir un impact, ces accords, sur le quotidien de contribuables dans les mois qui arrivent ?
Il faut être clair, il n'y aura pas, si la question derrière, on va le dire clairement, c'est est-ce qu'il y aura des augmentations d'impôts ? Non, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts. Et le bilan que nous portons depuis 7 ans avec le président de la République, Emmanuel Macron, est clair dessus. Il est clair. Depuis 7 ans, nous avons baissé comme jamais la pression fiscale sur les Français et sur les entreprises. C'est massif. Et donc ça, je pense que ça fait aussi preuve de gage sur notre capacité à continuer à mener notre débat sur non, nous n'augmenterons pas les impôts des Français.
Merci beaucoup, Prisca Thévenot, pour votre présence ce soir.
Merci
dans notre studio en direct. Et nous, on reste ensemble, évidemment, jusqu'à 20h avec vous, chers auditeurs d'Europe 1. Dans quelques instants, on va revenir sur l'affaire Kenji Girac. Cet après-midi, le procureur de Mont-de-Marsan a révélé des éléments éclairants. On va en parler dans quelques instants. Restez bien avec nous.
Europe 1 soir,
19h, 20h,
Céline Géraud.
Allez, 19h45, on est ensemble encore pendant 15 minutes avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, 01 80 20 39 21, si vous voulez réagir sur le sujet dont on va parler maintenant. Il s'agit de l'affaire Kenji Girac, on en parle beaucoup depuis plusieurs jours, à 4 jours après qu'une balle de revolver est venue transpercer le torse du chanteur sur une aire d'accueil de gens du voyage, c'était à Biscarrosse dans les Landes. Eh bien, le procureur de Mont-de-Marsan a retracé cet après-midi les faits de manière détaillée. Bonsoir Stéphane Place.
Bonsoir Céline, bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le correspondant européen dans le Sud-Ouest. Je salue également Yves Bigot. Bonsoir Yves Bigot.
Oui, bonsoir.
Merci d'être avec nous aussi en direct, PDG de TV5 Monde et évidemment grand spécialiste de tout ce qui touche à la musique. Alors je vais commencer avec vous Stéphane Place. Vous avez suivi cette conférence de presse du procureur de Mont-de-Marsan. La thèse de l'accident ne tient plus et on se dirige vers une simulation de suicide, c'est bien ça ?
Oui, c'est effectivement ce qu'a expliqué le magistrat cet après-midi. Alors d'abord, parce qu'il y a des constatations, comme dans toute enquête judiciaire, et des expertises, comme dans toute enquête judiciaire, et celle-ci a été menée visiblement avec beaucoup de minutie, et ces expertises assez rapidement ont montré que la thèse de l'accident ne tenait pas. Celle de l'intervention d'un tiers, c'est-à-dire d'une autre personne qui serait venue, par exemple, appuyer sur cette détente, ne tenait pas davantage. Et finalement, Kenji Girac, entendu par les gendarmes à l'hôpital, a fini par expliquer qu'il l'avait lui-même tiré, qu'il s'était tiré dessus pour simuler, c'est ce qu'il explique, un suicide au terme d'une journée de dimanche, puisque les faits se sont passés dans la nuit de dimanche à lundi, où il avait beaucoup bu toute la journée, le regrettant d'ailleurs, c'est aussi ce qu'il a expliqué aux enquêteurs, mais il a consommé de l'alcool à midi, le soir, dans la soirée, et quand il revient dans la caravane qu'il occupe avec sa compagne et leur petite fille, eh bien, ça ne se passe pas très bien, il y a une dispute dans le couple, des échanges de mots, hein, pas du tout de violence physique, mais ils ne sont évidemment pas d'accord à ce moment-là sur ce qui est en train de se passer, d'autant que le chanteur éméché réveille leur enfant. Bref, on peut imaginer la tension qui s'installe, et à ce moment-là, alors que la petite avec sa mère se trouve dans la chambre, dans le salon de la caravane, eh bien, Kenji Girac explique qu'il a entendu sa compagne évoquer un départ possible, et il a voulu lui faire peur lui aussi, et il s'est emparé de cette arme qu'il avait achetée quelques jours plus tôt, 500 euros à un gars, dit-il, qui est venu dans ce camp de gens du voyage vendre ce pistolet, et qu'il a appuyé sur la détente, mais qu'il n'imaginait pas que le chargeur était approvisionné. Et en tout état de cause, que l'on peut constater aussi, ce que la justice constate aussi, ce que les examens médico-légaux expliquent, c'est qu'il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance, parce que balle n'a pas touché d'organe vital, l'a traversée de part en part avant de ressortir de la caravane. Et d'ailleurs, elle a été retrouvée par les gendarmes pas plus tard que ce matin.
Alors Stéphane Place avec nous en direct de Mont-de-Marsan. Il a assisté, Stéphane Place, le correspondant européen dans le Sud-Ouest, à la conférence de presse du procureur de Mont-de-Marsan. Yves Bigot, je reviens vers vous maintenant. On découvre depuis plusieurs jours, au fil de l'enquête, au fil des révélations aussi du procureur cet après-midi, la personnalité de ce chanteur très populaire, mais aussi son côté plus sombre, l'alcool, la fête, voilà, quelques dérives. C'est aussi ça, Kenji Girac, c'est aussi ça la vie d'artiste.
Oui, alors c'est pas forcément la vie de tous les artistes, hein, mais c'est une dérive, on va dire, bien connue chez certains artistes, voilà, fragiles ou qui ne sont pas préparés en fait au succès d'un seul coup, à la gloire, à l'argent aussi, et aux pressions qui vont aussi avec le succès, parce que après un succès, il en faut un deuxième, après un deuxième, il en faut un troisième, etc. Et il y a aussi la pression pour arriver à trouver les tubes, à continuer à maintenir son niveau. Alors c'est évidemment c'est une histoire triste, hein, comme toujours dans ce genre d'histoire. Après, vous allez me demander vraisemblablement est-ce que c'est bon ou mauvais pour sa carrière.
Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, il y a le côté fulgurant. Ce que vous dites, c'est que cette ascension fulgurante a été difficile finalement à digérer pour lui. Mais il y a aussi la pression qu'effectivement il a dans sa communauté, parce qu'il fait vivre toute une communauté.
Bien sûr, ce qui est toujours le problème quand on se retrouve dans cette situation-là, hein, c'est parce qu'il faut... faut donner de l'argent aux uns et aux autres, et puis il faut que ça continue à venir, il n'est pas question que ça s'arrête, il faut pouvoir partager, il faut répondre aux ambitions. Puis il y a de la jalousie aussi, évidemment, puisque vous êtes celui qui a réussi, celui qui est riche, celui qu'on voit à la télé, qu'on entend à la radio, qu'on voit dans les journaux, etc. Donc tout ça, évidemment, ça crée des tensions et une pression, évidemment, très forte sur l'artiste. Alors, pas terrible dans cette histoire, en plus de son côté évidemment très triste et dramatique, c'est qu'il y a déjà deux mensonges au départ, puisque l'arme était censée avoir été achetée dans une brocante, ce qui donc n'est pas le cas, et puis ensuite ça devait être une erreur de manipulation, et on découvre aujourd'hui que ça n'est pas le cas. Et va savoir si on n'apprendra pas encore dans les jours qui viennent d'autres éléments supplémentaires. On ne peut pas l'exclure à ce stade. Donc savoir quelles seront les conséquences sur sur la carrière de Kenji Girac, c'est
un peu tôt
peut-être pour effectivement en parler. Mais Yves Bigot, vous restez évidemment avec nous, PDG TV5 Monde et grand spécialiste de la musique. Stéphane Place, vous étiez donc à la conférence de ce procureur de Mont-de-Marsan qui a été extrêmement bavard. Le nombre de détails qui a été révélé, c'est vrai, a surpris hein, tous les auditeurs, tous ceux qui ont suivi cette conférence de presse. Et il a abordé vraiment dans le détail toute l'enquête qui a été menée. Et il a abordé et aussi le sujet du suicide. Et il le dit, le suicide est un sujet tabou dans la communauté des gens du voyage.
Alors c'est effectivement ce qu'a expliqué le magistrat en disant que culturellement, pour des raisons notamment religieuses, c'était un sujet que lui a qualifié de tabou dans cette communauté. Et puis par ailleurs, ce que vous évoquez sur les détails, c'est le reflet du sérieux hein, des investigations qui sont menées depuis lundi, aussi sans doute parce qu'il y a une pression plus forte que par rapport à d'autres affaires, compte tenu de la personnalité de Kenji Girac, sa popularité, ce que vient d'expliquer Yves Bigot. Il occupe une place quand même sur la scène française aujourd'hui. Et puis, dès que ça touche un artiste, dès que ça touche une personne connue, ben, il y a beaucoup plus de rumeurs que dans une affaire classique. Il y a beaucoup plus de fantasmes aussi que dans une affaire classique. Donc là, il y a eu sans doute une volonté de plus encore que dans toutes les investigations de cet ordre, mais justement de savoir exactement, précisément, quel a été l'enchaînement des faits, comment ça s'est produit. D'autant que le début de l'enquête, le procureur l'a expliqué aussi cet après-midi, n'a pas été aisé. Je vous rappelle qu'on ne retrouve pas l'arme tout de suite. Elle a été jetée, pour ne pas dire autre chose, dans un buisson. On ne la remet pas comme ça spontanément aux gendarmes. Oui. Donc voilà, il y a eu tous ces détails-là aussi pour expliquer que ça se passe dans l'huis clos d'une caravane, dans l'intimité d'une famille. D'un couple, tout ça qui est expliqué cet après-midi. Et puis un procureur de la République qui dit « Moi, je ne suis pas l'impresario de Kenji Girac, mais évidemment, il m'a dit de grosso modo expliquer qu'il regrettait ce qu'il avait fait et qu'il espérait retrouver, il ne l'a pas exprimé exactement dans ces termes-là, mais ça voulait dire ça, ses fans bientôt. Et puis on lui a même posé la question, procureur de la République, puisqu'il l'avait eu au téléphone quelques instants avant la conférence de presse, si il sentait qu'il était en mesure de parler, donc peut-être de rechanter, dans quel délai. Enfin, vous voyez, il y a ce type d'interrogation.
Mais Stéphane Place, on avait aussi l'impression que voilà, il y avait des fois aussi de la thérapie de couple. Parce qu'il disait, voilà, je lui ai conseillé, il aurait fallu qu'il fasse ça. Enfin, c'était assez étrange quand même, cette conférence de presse. Yves Bigot, PDG TV5 Monde et journaliste spécialiste de musique, le chanteur Kenji Girac, très populaire hein, parmi les jeunes, on le rappelle, hein, jury de Voice Kids, vainqueur lui-même de cette émission. Son image est quand même sérieusement écornée avec cette affaire, non ?
Alors écoutez, oui, mais... Alors c'est jamais bon, hein, mais peut-être pas, parce que finalement, il n'a fait du mal qu'à lui-même. Ça, c'est la première chose. Alors, il y a peut-être des problèmes familiaux, mais voilà, il n'a blessé personne. Oui. Donc, la rédemption est tout à fait possible dès lors qu'il n'a fait de mal qu'à lui-même. Et que je pense que, en tous les cas, les talk-shows seront ravis de le recevoir pour le cuisiner, lui faire raconter son histoire, mais qu'est-ce qui s'est passé, mais, etc. Donc, je pense pas que... Mais encore une fois, sauf à ce qu'il y ait d'autres révélations hein, oui. Qui arrivent dans les jours qui viennent, aujourd'hui, je vous dirais, c'est pas bon, mais c'est pas perdu du tout.
Mais vous ne pensez pas que la consommation excessive d'alcool, de drogue, puisse nuire justement à son image auprès des jeunes, en termes de messages envoyés ?
Écoutez, ça n'a jamais fait de mal ni à Serge Gainsbourg, ni à Johnny Hallyday, vous voyez ça.
Ah, c'était pas le même public tout à fait, Yves Bigot,
et non, ni à la même époque. Vrai, non, mais bien sûr, vous avez raison, c'est pas le même public, mais... C'est pas bon pour son image, je vous dirais, auprès du grand public. Mais est-ce que auprès de son public,
Il peut rebondir,
ça
fera
un handicap ? Je suis pas certain, hein, parce que d'autant que s'il en vient à expliquer qu'il avait des problèmes de couple, etc. On peut voilà, c'est tout à fait possible que ses fans lui pardonnent. Alors il en perdra peut-être certains au passage, hein, c'est vraisemblable.
Mmh. Oui, Yves Bigot avec nous en direct, PDG de TV5 Monde et journaliste spécialiste de musique, et Stéphane Place hein, qui a donc assisté cet après-midi à cette conférence, j'allais dire lunaire presque, du procureur de Mont-de-Marsan, parce que c'était long, parce qu'il y avait énormément de détails, on avait la sensation presque voilà, que le procureur, c'est pas qu'il se faisait plaisir, mais voilà, il était dans la lumière, il racontait une histoire, c'était presque une série quoi. Le couscous, on avait tous les détails, quoi. C'était dingue.
Céline, je vais être très franc avec vous. Moi, je trouve que ces conférences de presse où justement on a tous les détails, le maximum d'informations, etc., elles me vont très très bien. Et encore une fois, on a un début, on a une fin, en fait.
C'est-à-dire que pour lui.
Oui, puis ça correspond à la minutie des investigations. Par ailleurs, c'est une affaire, et la preuve, c'est qu'on en parle depuis lundi, qui a suscité une émotion singulière. Le procureur a indiqué aussi que, parce que c'est important par rapport à ce que l'on constate ce soir, hein, mais judiciairement, parce qu'il faut quand même en revenir aussi à cela, ça va se terminer très probablement, sauf élément nouveau, et ça paraît peu probable, a dit lui-même le magistrat, qui est un magistrat expérimenté. Cette procédure devrait donc se terminer par un classement. Et puis,
oui, parce voilà, que les faits ne sont pas pénalement répréhensibles, clairement.
Absolument. Bah, il n'y a pas d'infraction qui apparaît aujourd'hui, évidemment. Donc, c'est pour ça que ça devrait se terminer par un classement sur le plan judiciaire. Et le procureur qui a effectivement indiqué qu'il avait posé la question à Kenji Girac sur ses capacités et que ce dernier espère récupérer, sur ses capacités vocales, espère récupérer ses capacités avec de l'entraînement. Parce que encore une fois, ce n'est pas une petite blessure. Hein. Il est hospitalisé, il y est toujours d'ailleurs, soigné à l'hôpital Olévêque à l'heure où on parle à Pessac.
Un grand merci à Stéphane Place pour tous ces détails ce soir en direct, correspondant Europe 1 dans le Sud-Ouest. Un grand merci également à Yves Bigot, PDG TV5 Monde et journaliste spécialiste de musique qui était avec nous en direct pour réagir dans cette affaire autour de Kenji Girac. Allez, c'est fini, on ferme pour ce soir. On se retrouve évidemment très vite pour de nouvelles aventures. Et tout de suite, c'est La France bouge avec vous, Elisabeth Assayag. Bonsoir, quel est le programme ce soir ?
Bonsoir Céline, ce soir une France bouge consacrée à la santé de la femme. Et oui, même dans ce domaine, il y a des pépites françaises, des entreprises et des innovations. On en parle de 20h à 21h. À tout à l'heure.